Sans rire, je ne souhaite pas faire la fête au papa ce matin, hein, en faisant un message avec voilà tout ce qu'un papa, tout ce que Dieu attend d'un papa ce matin, mais je voulais plutôt faire un message encourageant, et c'est en allant dans les évangiles, en étant sur Romain, Luc chapitre 8, je suis tombé nez à nez avec Jaïrus, un papa. Un papa qui a eu une petite fille qui était souffrante, même mourante, et il a été rempli d'émotions. Et figurez-vous que je me suis vraiment associé à Jaïrus, parce que moi aussi, j'ai connu une situation comme ça, où j'avais ma petite fille mourante dans les bras. Vous aimeriez en savoir plus, n'est-ce pas? C'est juste un teaser pour que vous suiviez la suite. En fait, ce matin, on va regarder cette histoire dans le détail, mais j'aimerais que vous reteniez au moins cette idée. Ça marche, ça fonctionne pas encore. Ça va arriver. Ouais, si tu peux mettre la slide qui est juste après. En fait, j'aimerais que tu retiennes cette idée. Que tu sois un papa, une maman, que tu sois célibataire, veuf, veuve, tu as besoin de Jésus dans ta vie. Tout le monde a besoin de Jésus dans ta vie. Les papas ont besoin de Jésus dans leur vie, mais tout le monde, en fait, a besoin de Jésus dans ta vie, dans sa vie. Et donc, j'aimerais qu'on regarde ce texte ensemble. On va le lire. C'est dans l'évangile de Luc. Il y est dans les trois évangiles. Et à chaque fois, on retrouve la même histoire. C'est-à-dire que vous allez voir, c'est deux histoires en une. Mais on retrouve toujours la même chronologie. Et là, on se dit, tiens, c'est marrant que moi, je voulais juste parler de Jaïrus, mais je vais être obligé de parler de quelqu'un d'autre en plus. Et vous allez voir qu'on va apprendre des choses ici. Alors, on lit à partir du verset 40. À son retour, Jésus fut reçu par la foule car tous l'attendaient. Et voici qu'il vint un homme du nom de Jaïrus, qui était chef de la synagogue. Et se jetant à ses pieds, il suppliait Jésus d'entrer dans sa maison, car il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans qui avait dépensé tout son bien chez les médecins et qui n'avait pu être guérie par personne. Elle s'approcha par derrière et toucha la frange du vêtement de Jésus. À l'instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Mais qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre dit, « Mais maître, la foule t'entoure et te presse. » Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car je sais qu'une force est sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Tous pleuraient, Il parlait encore lorsque survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un qui disait, « Ta fille est morte, n'importune plus le maître. » Mais Jésus, qui avait entendu cela, dit au chef de la synagogue, « Sois sans crainte, crois seulement et elle sera sauvée. » Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. » Et ils se moquaient de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte, « Enfant, lève-toi » Son esprit revint en elle. À l'instant, elle se leva et Jésus ordonna de lui donner à manger. Les parents de la jeune fille furent étonnés et il leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. Voilà la fin de la lecture de la parole de Dieu. J'ai relevé ici quatre points sur l'attitude de Jaïrus, l'attitude d'un papa que nous devrions adopter, nous en tant que père, mais aussi, je l'ai dit, en tant que mère ou en tant que célibataire. Et la première chose, c'est que Jaïrus, c'est un père désespéré, qui supplie Jésus d'entrer dans sa maison. Un père désespéré, une personne désespérée, et qu'il va supplier Jésus d'entrer dans sa maison. On regarde on regarde encore une fois le verset 41 et 42. Et voici qu'il vint un homme du nom de Jaïrus qui était chef de la synagogue et se jetant à ses pieds, il suppliait Jésus d'entrer dans sa maison car il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Ici, on apprend quelque chose sur cet homme. Jaïrus n'est pas n'importe qui. C'est le chef de la synagogue de Capernaum. Et c'est un archi-sounagogos. Ça vous en dit long, hein? Archi-sounagogos, ça veut dire que c'est le plus haut placé dans la synagogue. Il gère, il supervise tout ce qui se fait dans une synagogue. Donc c'est le boss des boss, ok? Chez les juifs. Jaïrus fait donc partie de l'élite juive. Il a un rang social élevé, c'est un homme reconnu, et probablement respecté sur le plan social et forcément religieux. C'est pas un homme pauvre, c'est un nanti. Et il fait partie de la tranche aisée des gens qui peuvent se payer les meilleurs médecins. Mais malgré ses facilités, en fait, on le voit ici dans une situation précaire. Il est démuni, impuissant, face à une situation qui le dépasse. Sa fille, âgée de 12 ans, est mourante. Et elle devait vraiment être à l'agonie parce que, on voit quelques instants plus tard, elle est morte. Donc là, on est vraiment, il y a quelques minutes entre le moment où il rencontre Jésus et peut-être quelques heures, et où le moment où on va lui annoncer la mort de sa fille. Mais figurez-vous que j'ai pas trop de peine à me mettre dans les baskets de Jaïrus parce que j'ai moi-même vécu une situation de totale impuissance avec ma fille dans mes bras. Et je m'en souviens honnêtement comme si c'était hier. Vous voyez qui c'est ce petit bébé? Ça c'est mon nez. Vous l'avez repéré. En fait, ce petit bébé, c'est la toute première qui est arrivée dans la famille. C'est Isaline. Alors vous l'avez vu tout à l'heure sur l'estrade, elle a un peu grandi depuis. Mais à cette époque-là, elle avait quelques jours. J'ai demandé à mon épouse, elle m'a dit peut-être 2 semaines, 1 semaine et demie, 2 semaines. Et donc, Sandrine l'allaitait. Et il se trouve que, donc elle finit l'allaitement. Ça devait être, je sais pas, 10h du soir, j'imagine. Et donc, elle allait la petite, et puis elle la met sur son épaule, et vous savez ce qu'on fait, on tapote un petit peu sur le dos pour faire un petit rototo. On attend ce petit rot avec impatience. Alors, ça vient pas toujours, mais la plupart du temps, on a... Et là, il y a eu... Et en fait, elle a régurgité, et elle a régurgité par le nez aussi. Or, à cet âge-là, un bébé n'a pas le réflexe de respirer par la bouche. Il respire avec son nez. Et toutes ses voies respiratoires étaient prises par le vomi, en fait. Et donc, mon épouse entend le bébé, elle la regarde en face, et elle voit le bébé qui essaye de respirer, mais qui n'y arrive pas. Tout est bloqué, en fait. Et elle sait pas quoi faire, elle commence à paniquer, puis le teint commence à devenir tout pâle, les lèvres deviennent bleues, et là, elle vient en courant, Franck, elle est en train de s'étouffer, je sais pas quoi faire. Imaginez la scène. Mon taux d'adrénaline est monté au plafond. Et, fais quelque chose. Alors là, je me suis posé, j'ai dit, écoute chérie, on parle pas comme ça à son époux, hein. Je lui ai fait un cours de relation d'aide. Non, c'est pas... Quand elle m'a filé le bébé, et moi je me suis dit, oh, mais qu'est-ce que tu fais? J'ai pas été préparé à ça, j'ai pas eu de formation. Et dans ce genre de situation, on pousse un cri. On fait, Seigneur, fais quelque chose. Honnêtement, j'ai fait ça, je savais pas quoi faire. Un bébé qui étouffe face à vous, qu'est-ce que vous faites? Un massage, ça marche pas. Il y a rien qui marche. Et j'ai fait cette prière. Seigneur, fais quelque chose. Et j'ai eu une intuition, j'ai pas réfléchi en fait. J'ai posé le bébé, je me suis penché au-dessus de sa tête, et j'ai chopé son nez avec ma bouche. C'était plein de vomi, hein. Donc c'est pas très... Mais j'ai aspiré, j'ai craché, j'ai aspiré, j'ai craché, et j'ai fait ça plusieurs fois. Elle s'est mise à respirer. La grâce de Dieu. Vous comprenez pourquoi je peux imaginer les émotions de Jaïrus? Sa fille est mourante, il ne sait pas quoi faire. Et il a fait comme ça. Il s'est mis à genoux au pied de Jésus. Je t'en supplie, fais quelque chose pour ma fille. Fais quelque chose pour ma fille. Et c'est ce qui s'est passé. Il a demandé à Jésus de venir dans sa maison. C'est ce qu'il dit. Je t'en supplie. Il se jette à ses pieds et il demande à Jésus de venir dans sa maison. Le texte dans Matthieu, il y a les trois évangiles, donc c'est bien parce qu'on peut aller regarder les mots qui sont utilisés. Là, Jaïrus, dans Matthieu 9, il dit qu'il se prosterna. Il s'est mis à genoux, humblement, comme lorsqu'on adore en fait. Il s'est mis aux pieds de Jésus, il s'est jeté à ses pieds, il a adoré, comme ça, et l'a supplié. « Je t'en supplie, Jésus, viens dans ma maison !»« Je t'en supplie, Jésus, viens dans ma maison !» En fait, cet homme n'a pas réfléchi à sa réputation. Il était quand même le chef de la synagogue, et Jésus n'avait pas bonne presse parmi les religieux. Il était rejeté des religieux. Mais vous savez, quand on est dans ce genre de situation, on n'écoute plus vraiment son entourage. On veut sauver notre bébé. Il n'y a que ça qui compte. Et il avait entendu de Jésus. Sa réputation ne faisait que grandir. Jésus avait déjà guéri des malades, des lépreux. Il avait, juste avant cet épisode, guéri un démoniaque. Et tout le monde le savait. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y avait du monde. Ça se répandait comme une traînée de poudre. Et donc Jésus avait cette réputation, il avait entendu parler de ce Jésus qui faisait des miracles, ce rabbin qui faisait des miracles. Et donc, il a voulu que Jésus rentre dans sa maison. Je fais une petite application ici, parce que c'est une constante dans les Écritures et dans la vie chrétienne, quelque part, où avant de venir à Jésus, il faut qu'on arrive à des situations extrêmes pour se tourner vers Jésus. Les missiologues disent que c'est quand le chaos est là que le kairos arrive, le moment opportun, que le cœur s'ouvre, que le cœur se ramollit, qu'il est moins dur, qu'on est prêt à écouter. Regardez ce que C.S. Lewis a dit. Il a dit, alors ça marche pour la douleur physique ou morale, mais la douleur est le mégaphone de Dieu. Il s'en sert pour nous annoncer que nous avons besoin de lui. Et c'est ce qui se passe ici. Il est dans la panique. Il ne sait pas quoi faire, Jaïrus. Il veut que son enfant vive, et on peut le comprendre, on peut le comprendre. Et donc il vient crier à Jésus, « S'il te plaît, entre dans ma maison, toi tu es le seul qui peut faire quelque chose. » En fait, je ne connais pas ta situation de père ou de mère, mais peut-être que ton fils ou ta fille est venu te voir, ou un jour va venir te voir et te dire, « Papa, j'ai menti, je t'ai caché mes mauvaises notes. » C'est arrivé à certains. Papa, j'ai volé de l'argent dans ton portefeuille. Papa, j'ai cassé la voiture. Papa, je suis harcelé par mes camarades à l'école. Papa, je fume du hash. Papa, je suis homo. Papa, je me sens mal dans ma peau et je veux devenir une femme. Papa, j'ai été abusé par un garçon. Papa, je suis enceinte. Papa, j'ai avorté. Papa, je n'ai plus le goût de vivre. Et je veux me suicider. Papa, je te déteste. Papa, je n'aime pas ton Dieu et je n'irai plus à l'église. » Alors je ne vous souhaite pas, hein, mes chers confrères, les papas, de vivre une telle situation. Mais c'est peut-être celle que tu vis ou que tu as vécue et que tu aimerais n'avoir jamais vécue. Lorsqu'on vit ce genre d'expérience, on aimerait aller directement au ciel. Et pourtant, Jésus les permet. Et il souhaite une chose. C'est la traversée avec nous. Il souhaite venir dans ta maison et t'aider à gérer cette situation. Moi, je ne peux faire que t'encourager à faire comme Jaïrus. Prosterne-toi aux pieds de Jésus. Et là, je te supplie de supplier Jésus d'entrer dans ta maison. Si tu es dans une situation comme celle-ci, demande à Jésus d'entrer dans ta maison. Tu vas voir la suite. Que Jésus, ça change tout, quand Jésus est dans la maison. En fait, il n'y a aucune situation qui est désespérée pour Jésus. Aucune. Il rejette aucune personne qui vient à lui humblement et qui est dans le désespoir. En fait, il est venu pour ça. Il est venu pour les mendiants de la grâce, pour ceux qui ont besoin de béquilles, pour ceux qui n'arrivent pas à gérer leur situation, pour les humbles. Pas pour les orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Il la donne pas à ceux qui disent « Je gère, t'inquiète ». Non, non. Il est là pour les faibles, pour ceux qui se jettent à ses pieds et qui disent « Je t'en supplie, Jésus, entre dans ma maison, entre dans ma maison ». Deuxième émotion, idée que vit Jaïrus. Un père angoissé qui attend l'intervention de Jésus. C'est les versets 42 jusqu'au verset 48. Je relis le texte. Pendant que Jésus y allait, donc il allait voir cette petite fille, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, qui avait dépensé tout son bien chez les médecins et qui n'avait pu être guérie par personne. Elle s'approcha par derrière et toucha la frange du vêtement de Jésus. À l'instant, la perte de sang s'arrêta et Jésus dit « Mais qui m'a touché ?» Et comme tous s'en défendaient, Pierre dit « Maître, la foule t'entoure et te presse !» Mais Jésus répondit « Quelqu'un m'a touché, car je sais qu'une force est sortie de moi. » Et la femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touchée et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Vous avez vu la même attitude de cette femme que Jaïrus. Qu'est-ce qu'elle a fait là? Elle s'est jetée à ses pieds. Elle s'est jetée à ses pieds, elle a exercé sa foi en fait. Elle a fait exactement ce que Jaïrus a fait. Mais ici, honnêtement, ça me dérange. Je ne sais pas vous, hein, imaginons que vous soyez avec votre enfant, ça m'est arrivé. Hein, mon fils, à un moment donné, s'est ouvert le crâne, on chahutait dans le lit, et puis il est tombé du lit, bing, il s'est pris le coin du radiateur, et il s'est vraiment ouvert, je crois que c'est derrière la tête, ouais. Il a une belle cicatrice encore, il pourrait vous la montrer. Et donc du coup, imaginez le sang qui coule le long de son cou, comme ça, et donc, qu'est-ce que je fais avec ça? Parce que ça coule beaucoup, un crâne ouvert, c'est hypervascularisé le crâne, donc il y a beaucoup de sang qui est... Bon, on fait ce qu'on peut, on met une compresse, et je dis, là, il faut qu'on aille aux urgences. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va dans la salle d'attente, on va à l'urgence pédiatrique, et on est en France, bienvenue. En moyenne, c'est entre 8 et 11 heures d'attente. Et là, imaginez, une petite fille arrive, sa maman, un petit peu chochote, vient à l'hôpital parce que sa fille est tombée en courant, d'accord? Et imaginez un genou écorché, hein. Toutes les familles qui ont des enfants ont eu ce genre de bobo. Okay. Imaginez que la maman vienne pour sa fille, et on peut la comprendre, c'est la première fois qu'elle voit du sang, et elle est affolée, et vous êtes là, en train de faire la queue, il y a cette dame qui arrive avec sa petite fille. « Oh, monsieur le médecin, s'il vous plaît !» Puis elle s'agrippe au médecin, elle tire sur sa blouse blanche comme ça, « s'il vous plaît, guérissez ma petite fille !» Et le médecin, lui, eh bien, il va s'occuper de cette petite fille. Et là, vous dites, mais attends, c'est quoi l'urgence, là? J'ai mon fils qui est en train de pisser le sang, c'est juste un petit bobo, vous voyez? Et on se compare. Et là, on se dit, mais il y a quelque chose qui cloche. Et c'est exactement ce que vit ici Jaïrus, cette situation-là. Il y a cette femme, ça fait 12 ans qu'elle attend. Elle peut attendre 10 minutes de plus, vous croyez pas? Parce que c'est ce qui se passe. 12 ans qu'elle est malade. C'est bon, tu peux attendre une journée, hein, ça va. 12 ans plus un jour. Bon, attention, les hémorragies pouvaient nous amener à la mort. Hein. Si on perd trop de sang, on est anémié au point de plus... Et notre cœur s'arrête. Donc, c'est grave comme maladie. Non seulement cette femme, elle avait ses pertes de sang, mais en plus, elle était juive, et elle était donc rituellement impure. Elle ne pouvait pas faire de sacrifices. Elle ne pouvait pas aller au temple. Elle ne pouvait pas toucher les gens et personne ne pouvait la toucher. Elle était exclue, en fait, cette femme. Elle avait dépensé tout son argent. Donc, elle avait probablement... Elle était pauvre, parce que forcément, elle ne pouvait côtoyer personne. Donc, vous imaginez sa situation. On est à l'opposé de Jaïrus. À l'opposé de Jaïrus. Et là, on apprend une chose. C'est que dans cette situation, Dieu, il va sauver les deux. D'accord? Il sauve les deux. C'est ce qui se passe. Et aux deux extrêmes, en fait. L'un était riche, respecté, reconnu. Lui, il pouvait voir du monde. Il avait une vie sociale. Elle, elle était exclue, rejetée, impure, une femme. Donc vous imaginez, on est aux antipodes. Et Jésus vient pour ces deux personnages qui se jettent à ses pieds et qui le supplient. Jésus, il est venu pour tout le monde, en fait. Vous voyez, c'est pas simplement Jésus est venu pour les pauvres, il est aussi venu pour les riches qui allaient le supplier, qui étaient prêts à se mettre à genoux. Et donc, ça montre l'ouverture ici de Jésus. Et donc, ce passage nous apprend encore une autre chose. Parce que si les trois évangélistes mentionnent dans le même ordre, on voit le début de l'histoire avec Jaïrus, on a cette... ils auraient pu séparer les deux histoires. Ça aurait été beaucoup plus simple pour le prédicateur que je suis. Moi, je prêche sur Jaïrus. Donc, tu aurais pu me faciliter la tâche. Matthieu et Marc et Luc. Franchement, c'est plus simple à prêcher deux textes différents. Eh ben non, ils ont choisi de m'embêter ce matin. Donc, je suis obligé d'en parler. Vous pouvez rire de temps en temps, hein, ça fait du bien pour les prédicateurs. En fait, il paraît évident qu'ils veulent attirer notre regard ici. Donc, la première mention, je l'ai faite. Mais c'est aussi plusieurs vérités qu'on apprend au travers de cet épisode-là. La première, c'est que Jésus, c'est pas un distributeur de bonbons. Et là, je vous fais quelques petites... C'est au Québec, ça. Vous allez dans une grande surface et il y a des distributeurs de bonbons partout. Ils aiment le sucre, des becs à sirop d'érable. Et en fait, on a des distributeurs de bonbons un peu partout. Ici, Jésus nous montre que c'est pas un distributeur de bonbons. C'est pas, il n'est pas à notre service. Jésus est libre de répondre quand il a décidé de répondre. Personne ne peut imposer le timing de Dieu. Et dans ce cas, il a choisi de temporiser par rapport à la fille de Jaïrus, de le faire patienter. Et finalement, il va autant se glorifier en ressuscitant cette fille qu'en la sauvant de sa maladie. Mais voyez, c'est le timing de Dieu. Et bien souvent, on n'est pas dans le timing de Dieu. On a un décalage et nous, on aimerait que Dieu y réponde comme ça, à ce moment précis. Mais Dieu, il fait ce qu'il veut. Dieu, il fait ce qu'il veut, il n'a pas de compte à nous rendre. Vous savez que j'ai été à l'hôpital aussi, au pied de ma maman qui était mourante. Elle avait un cancer en phase terminale, elle était en soins intensifs, même pas palliatifs, soins intensifs. Parce que de toute façon, les soins palliatifs, ça ne servait à rien. Dans son cas, ça ne servait à rien. Moi, j'ai supplié le Seigneur qu'il fasse un miracle, qu'il sauve ma maman. Elle n'était pas du tout âgée, elle avait encore de belles années à vivre devant elle. Eh bien, elle en a décidé autrement. J'ai supplié le Seigneur de faire un miracle, et il n'a pas eu lieu. Dieu a répondu à sa manière. Moi, j'aurais souhaité qu'il réponde différemment, mais Dieu se glorifie au travers de cette situation. La deuxième chose qu'on apprend aussi, c'est que la bénédiction des autres n'enlève rien à la nôtre. Ok ? On n'a pas besoin de se comparer dans ce domaine-là. Jésus n'est pas limité dans ses bénédictions. Il n'y a pas un quota de bénédictions à distribuer chaque jour que nous devons saisir au vol. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ce manège-là qui tourne. Les enfants, c'est marrant, ils font un ou deux tours. Et puis pour gagner un tour gratuit, on jette un pompon et c'est celui qui l'attrape. Ça marche pas comme ça avec Dieu. Tiens, attrape le pompon là, c'est pour toi, c'est ton tour, vas-y. Ah, dommage, tu l'as raté. Non, ça marche pas comme ça avec Dieu. Il n'a pas de quota. C'est pas parce que Jésus bénit une autre personne qu'il ne peut pas nous bénir en même temps. Jésus est Dieu, les amis. Jésus, c'est notre Créateur. Et vous devez être rassurés sur ce point. Jésus est omnipotent. Il est assez puissant pour s'occuper de plusieurs situations en même temps. Ses compassions, la Bible nous dit, elles ne sont pas épuisées. Elles ne sont pas limitées. Elles se renouvellent chaque matin. Donc, réjouis-toi de la bénédiction des autres. Réjouis-toi de la bénédiction des autres. Jaïrus aurait pu être jalousé, finalement, cette femme, mais Jésus n'a pas oublié. Il a simplement mis un tempo. Ok, c'est moi qui décide. Je fais ce que je veux. T'as pas à me donner d'ordre. Si tu n'es pas exaucé immédiatement, eh bien, c'est que Dieu a des choses à t'apprendre. Et ça, c'est le troisième vérité qu'on apprend au travers de cet épisode, c'est que l'attente fait partie de la pédagogie de Dieu pour purifier notre foi. Lorsque nous sommes dans l'urgence, on voudrait que Dieu intervienne tout de suite. Mais si Dieu nous fait patienter, mes amis, c'est qu'il travaille quelque chose de plus important en nous. Et c'est quoi cette chose de plus précieuse qu'il y a en nous? C'est notre foi. 1 Pierre chapitre 1, versets 6 et 7. Pierre nous dit que notre foi est plus précieuse que l'or périssable. C'est vraiment quelque chose de précieux. Il s'intéresse davantage aux fruits que l'on porte, d'accord, qu'à la puissance du message. Jésus s'intéresse et il prie pour qu'on porte davantage de fruits. Il nous émonde. Les amis, cet émondage, cette difficulté, c'est parfois ces temps de patience où on est obligé d'attendre. C'est dans ces moments-là que Dieu travaille notre foi. Donc la patience, c'est un petit peu comme une flamme. Elle va chauffer l'or pour qu'il se purifie. Donc là, quand vous devez patienter pour une situation, souvenez-vous de cela. La patience, l'attente, est une flamme que Dieu utilise pour purifier ma foi. Et la quatrième vérité, celle-là je me suis marré en la faisant, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et tout le monde dit Amen, parce que c'est un verset de la Bible, dans l'Épître aux Hébreux. Oui, Jésus est le même. Parfois, il agit rapidement, il évite la catastrophe. Parfois, il la permet. On ne peut pas anticiper sa réaction et tordre le bras de Dieu pour qu'il intervienne comme on le souhaite. Dans ce cas, il a permis que la petite fille meure. Mais dans un autre cas, il va sauver le petit garçon avant qu'il meure. Et on ne sait pas pourquoi, en fait. On n'a pas d'explication. On ne peut pas anticiper la manière de réagir de Dieu. Et c'est là où il faut se souvenir que Dieu est fidèle. Mais ce n'est pas parce qu'il est fidèle qu'il doit agir toujours de la même façon. On ne peut pas anticiper la manière dont Dieu va réagir. Dieu est imprévisible. Hein, ce n'est pas comme quand tu fais une prière, hein, toi tu commandes, tu fais ta commande et tac, click and collect. Ok, j'ai prié, donc maintenant je viens chercher. Ça ne se passe pas comme ça. Moi je pense que c'est plutôt click and patiente. C'est comme ça que ça se passe avec Dieu. Attends, je suis en train de travailler là. T'inquiète, j'ai entendu ta prière. Jésus n'est pas sourd, les amis. Et Jésus peut s'occuper de plein de situations en même temps. Il est Dieu. C'est le créateur de l'univers. Je veux dire, ce qu'on lui demande, les amis, c'est des cacahuètes. C'est de la cacahuète. C'est comme quand ton enfant te demande une tranche de pain. Enfin, je veux dire, ça va, il y a pire, hein. S'il m'avait demandé un framboisier, ah, là, c'était déjà plus compliqué. Surtout si c'est un framboisier mangeable. Mais une tranche de pain, je peux fournir facilement. Vous voyez? Ou un verre d'eau. On peut faire facilement. Mais Dieu est notre créateur, les amis. C'est celui qui a créé l'univers. Il n'est pas à court. Il peut répondre comme il veut. Donc ce n'est pas click and collect. Dieu a promis qu'il serait avec nous dans toutes nos épreuves. Il a promis à Corinthiens 10:13 qu'il ne permettrait pas que nous soyons éprouvés au-delà de nos forces. Mémorisez ces textes. C'est fondamental. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ok, Dieu est avec moi tous les jours. Dieu est avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dieu est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dieu est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu le crois? Amen. On va voir si tu le crois vraiment. Ça, c'est le troisième point. Ici, on voit un homme tiraillé. Jaïrus est tiraillé, mais malgré tout, il croit. Pourquoi il est tiraillé? Parce qu'il y a ses collègues qui sont autour de lui, parce qu'il y a ses amis qui se moquent en fait. Sa fille, elle est vraiment morte. Quelqu'un est venu lui dire. Il parlait encore lorsque survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un qui disait « Ta fille est morte. N'importune plus le maître. » Mais Jésus, qui avait entendu cela, dit au chef de la synagogue « Sois sans crainte. Crois seulement et elle sera sauvée. » Ces paroles sont fondamentales, les amis. Il est tiraillé. Parce qu'il entend d'un côté que sa fille est morte, donc bah c'est fini maintenant, arrête d'importuner le maître. Tout le monde lui dit, arrête, ça sert à rien, arrête de t'obstiner, elle est morte. Et effectivement, lorsque ma maman est décédée, elle était devant moi, et puis j'ai regardé, elle était branchée un peu de partout, et il y a le petit encéphalogramme qui était plat. Et donc, aucune espérance. Et on ne m'avait pas prévenu que le corps humain a des réflexes. Et au bout d'une minute, ma maman l'a fait. Elle était vraiment morte. Mais ce sont les réflexes. Elle était réellement morte. L'encéphalogramme était plat. On ne leur faisait pas à eux. Hein. Ils savaient quand quelqu'un était mort. Donc cette jeune fille était morte. Mais Jésus veut donner de l'espoir à Jaïrus. Et il va lui dire, non, elle n'est pas morte. Elle dort. Mais elle est vraiment morte. Oui, elle est morte. Mais pour Jésus, réveiller un mort, c'est pas plus difficile que réveiller un enfant de sa sieste. Hein. C'est le créateur de l'univers. Souvenez-vous, Jésus, il peut faire tout ce qu'il veut. Rien ne peut l'arrêter. Alors, il utilise des lois, mais quand même, il est au-dessus de tout ça. Et il peut faire ce qu'il veut. Et dans cette circonstance, il va ressusciter, il va redonner la vie à cette petite fille. En fait, je ne sais pas si vous avez observé, mais quand vous vous mettez à croire en Jésus, on marche à contre-courant. Vous commencez à croire en Jésus et vous avez toutes ces voix qui arrivent contraires. Mais non, c'est un concours de circonstances. Mais non, c'est pas un miracle. Mais non. Et vous voyez, ces petites voix qui nous arrivent en permanence. Et ça aussi, c'est une constante dans la vie chrétienne. Ce sont les gens qui sont autour de nous qui nous découragent de suivre Jésus. Les gens qui croient pas au miracle. Les sceptiques. Ceux qui attribuent les miracles au hasard, au concours de circonstances. Et en lui disant, Jaïrus, ta fille est bel et bien morte. On te l'atteste, Jaïrus. C'est comme si ses amis remuaient le couteau dans la plaie et voulaient le faire douter. À ce moment précis, Jaïrus, il devait être tiraillé. Il entendait la voix de ses amis. Arrête, ça sert à rien. Et Jésus qui lui dit, non, non, fais-moi confiance. Crois. Fais-moi confiance. Sois sans crainte. Et vous voyez, il est là, entre les deux. Entre les deux. On sent ce moment. Mais Jaïrus va écouter la voix de Jésus, la voix de son berger, parce que Jésus est devenu son berger à ce moment-là. Son inquiétude était normale. Elle était normale. Elle va laisser la place à la foi. Et vous savez que ce genre de situation, on l'a vécu il n'y a pas si longtemps. Vous voyez qui c'est cette petite fille? En fait, je me souviens très bien lorsque Maxwell et Mélanie nous ont annoncé qu'ils étaient aux urgences avec la petite Noémie. Alors, ils sautaient pas au plafond, hein. Ils étaient inquiets. Ils étaient dans la crainte que on leur annonce une mauvaise nouvelle parce que la fièvre ne descendait pas, parce que la petite commençait à partir quelque part, un petit peu comme la fille de Jaïrus. Mais leur crainte était sous contrôle. Et je me souviens très bien quand j'ai eu Maxwell au téléphone. Il m'a dit la chose suivante, on est vraiment inquiet, mais on a confiance en Jésus. Tout est sous son contrôle. Rien ne lui échappe. Il était inquiet. Et c'est normal d'être inquiet. Si on n'est pas inquiet quand son enfant est en train de mourir, les amis, c'est qu'il y a un problème. On doit s'inquiéter de ça. Mais on ne maîtrise rien. On ne maîtrise pas sa vie. Et c'est pour ça que Mélanie et Maxwell ont remis ça entre les mains de Dieu. Ils ont dit, on est vraiment inquiet pour notre fille, mais on sait que Dieu est souverain. Et vous voyez, ça change tout. Ça change tout. Il était paisible dans cette situation. Au son de sa voix, je pouvais savoir s'il était dans la panique ou s'il n'était plus dans la panique. Il a été dans la panique, comme tout papa a été dans la panique. Quand j'avais mon bébé dans les bras qui pissait le sang, je peux vous dire que, ou ma petite fille qui n'arrivait pas à respirer, j'étais dans la panique. Et c'est normal. Mais avec un peu de recul, on remet ça à Dieu et on dit, ok, Jésus, tu es tout puissant. T'as sauvé la fille de Jaïrus, tu peux sauver la mienne. T'es pas obligé, mais je te le remets, je la remets entre tes mains. Alors, je sais pas si vous traversez une situation ou si vous avez traversé une telle situation, mais en fait, c'est assez révélateur. C'est là où on voit si on a vraiment la foi. Et là, on va retourner au Canada. Je vous avais dit que je vous ferais des petits rappels pour le Canada. Je ne sais pas si vous connaissez Charles Blondin. C'est dans les années 1850. Personne ne l'a croisé, j'imagine, ici. Oh, j'espère. Sinon, on a un petit problème. Mais quelqu'un a déjà entendu parler de Charles Blondin? Personne. Waouh. C'était un des funambules les plus connus de son temps. Et l'un des meilleurs, d'ailleurs, il est du Schnorr. Alors, il n'y a pas nos amis du Schnorr, Valérie, mais il est du Pas-de-Calais. Et donc, cet homme, il était de plus en plus connu, et il tendait une corde entre deux précipices. Alors, au début, il a commencé entre deux chaises, il est tombé. Et ensuite, il a tendu des câbles, comme ça, sur des distances de plus en plus longues. Et il a eu une idée folle. Il est allé au Canada, et entre le Canada et les États-Unis, il y a les chutes du Niagara. Et donc, il a fait tendre une corde entre les deux pays, entre les États-Unis d'un côté et entre le Canada de l'autre. Et donc, cet homme, il a, sur une année, il a traversé 17 fois, vous imaginez, et il a fait des trucs de dingue, il a traversé avec des échasses là-dessus. Il a traversé les yeux bandés. Il a traversé avec quelqu'un sur son dos. il a traversé avec une brouette. Et un jour, justement, il traverse avec cette brouette, et on le voit les yeux bandés, traverse avec la brouette, il arrive de l'autre côté, et donc tout le monde l'applaudit, et puis alors il pose la question au public. Comme là, je vous pose la question. Est-ce que vous pensez que je suis capable de traverser les yeux bandés? Et là, vous répondez quoi? Bah oui, je viens de le faire plusieurs fois. Est-ce que vous pensez que je suis capable de traverser les yeux bandés avec une brouette? Et tout le monde dit, oui, bien sûr, évidemment, tu viens de le faire sous nos yeux. Ben, je le crois, tu es capable de le faire. Est-ce que vous croyez vraiment que je suis capable de traverser avec une brouette et les yeux bandés? Vraiment? Est-ce que vous le croyez vraiment? Je vous pose la question ce matin. S'il l'a fait plusieurs fois, il est capable. Alors vous savez ce qu'il a posé comme question? Alors si vous pensez que je suis vraiment capable, montez dans la brouette. Et vous savez quoi? Silence. Est-ce que tu crois vraiment que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il peut intervenir dans ta vie? Alors monte dans la brouette. On peut croire que Jésus est capable de faire des miracles. C'est pas un problème ça. Je pense que tout le monde arrive à le croire. Maintenant, c'est plus facile de dire ça, dire oui, je crois que Jésus, il est vraiment capable. Amen. J'ai une bonne théologie. Sauf que maintenant, tu montes dans la brouette. Et c'est ce que Jésus nous demande. Jaïrus est monté dans la brouette. Il a fait confiance. Et ça change tout. Ça change tout. Et qu'est-ce qui se passe quand on monte dans la brouette avec Jésus, quand on voit le miracle? On n'est pas sceptique en se disant, ah, encore un concours de circonstances, c'est le hasard. Non, non, non. On est émerveillé. On est émerveillé par la puissance de Jésus. Et c'est ce qui fait toute la différence dans cette scène. Il y a plusieurs manières de réagir lorsqu'on voit un miracle. Et moi, honnêtement, lorsque j'étais non-croyant, que je voyais dans les actualités, on voit soit la télé, soit dans les journaux, on voit une voiture, et j'en ai vu de mes yeux, elle monte sur le camion de dépannage. Honnêtement, ça ressemblait à la taille d'une moto. C'était une voiture, mais tellement écrabouillée que on se dit, mais il n'y a pas un centimètre d'humain qui peut rentrer là-dedans. La personne qui était dans la voiture n'a rien. Elle n'a rien. Elle sort de la voiture, indemne. Il y a eu l'airbag qui a fonctionné, le moteur est passé à droite, il aurait dû broyer ses jambes, il est passé à droite. Et là, vous savez ce que je disais? Je disais, ah mais le hasard fait vraiment bien les choses quand même. Quel concours de circonstances! C'était pas son heure. C'était pas son heure. Et en fait, il y a une autre manière de réagir lorsqu'on est croyant. Et je pense que c'est ça la différence. Vous avez vu, le texte dit qu'il était étonné. C'est le mot « exister » mis en grec, ça veut dire « stupéfait ».« Extasié », c'est « oh, wow !» Jésus vient de faire un miracle extraordinaire. Il aurait pu faire comme les 9 lépreux qui ont été guéris de leur lèpre. Vous vous souvenez de ces 9 lépreux? Jésus, il guérit 10 personnes. 10, ils sont condamnés à mort. La lèpre, on finissait pas notre vie dans un lit. En général, on mourait dans une léprerie, bien à l'écart des autres. Et en fait, il guérit les 10. Il y en a combien qui revient? Un seul. Un seul. Vous voyez, c'est pas le miracle qui fait que on va croire. Le miracle, il est là pour attirer nos regards, pour montrer la divinité de Christ ici. Mais Jésus n'est pas venu pour ça. Jésus n'est pas venu pour faire des miracles. Les miracles ne faisaient qu'attester sa divinité. La preuve, c'est que regardez ce qu'il dit à la fin. Regardez à la fin. Pardon. Il leur recommanda de ne dire à personne ce qui est arrivé. Pourquoi il dit ça? Il a dit exactement l'inverse au verset 39. Regardez, j'ai commencé mon texte au verset 40, vous vous souvenez? Regardez jusqu'à avant. Ça, c'est le contexte. Retourne dans ta maison. Il vient de libérer un démoniaque. D'accord? Et regardez ce qu'il lui dit. Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. Dans ta maison. Ok? Et il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Vous avez vu les conséquences? C'est-à-dire que là, on a une personne qui vient d'être libérée des démons. Et il voulait suivre Jésus, hein, le texte est clair, il voulait tout le temps être avec Jésus. Je lui dis, non, je ne peux pas te prendre avec moi. Par contre, tu vas dans ta maison et tu vas en parler dans ta maison. Mais lui, il est tellement content, qu'est-ce qu'il en fait? Il en parle à tout le monde. Et voilà le problème, c'est que ensuite les gens venaient en masse et Jésus, il était pris pour le guérisseur du coin. Il était pris pour le faiseur de miracles. Et comme on vivait dans la pauvreté, il y avait tous ces miséreux qui venaient là pour le miracle. Jésus n'était pas dupe. À plusieurs reprises, il a dit, mais vous, si vous me suivez, c'est parce que je vous donne à manger, c'est parce que je fais des miracles. Hein, la Bible est très claire là-dessus. Et c'est pour ça que Jésus voulait pas qu'on fasse tout un foin de ce miracle-là. Oui, dans ta famille, là, mais je suis venu pour sauver des humains, je suis venu pour mourir sur une croix, je suis le Messie, je suis le vrai Messie, mais le Messie souffrant, pas celui qui va venir régner en maître et chasser les Romains. Non, je suis venu mourir sur une croix, payer la dette de tous les pécheurs qui reconnaîtraient leurs péchés, de tous ceux qui allaient se jeter à mes pieds et qui allaient me supplier. Jésus, entre dans ma maison. Entre dans ma maison. Vous voyez pourquoi il lui demande de faire. Jésus n'est pas venu sur terre épater la galerie en faisant des miracles, mais pour réconcilier les hommes avec son Père. Ça, c'est le cœur de sa mission. Et c'est pour ça, il est venu pour toi ce matin. Il est venu pour chacun d'entre nous. Et on a tous besoin de Jésus. Parce que notre péché nous sépare de Dieu. Il met une distance éternelle entre nous et notre Créateur. Et la seule manière de se rapprocher de notre Créateur, c'est une croix que Dieu vient, il nous tend la main par Jésus. C'est le seul qui peut le faire. Personne n'est revenu de la mort. Seul Jésus. Seul Jésus. Il n'y a qu'un seul tombeau qui est resté vide. Pas celui de Mahomet, pas celui de Confucius, pas celui de Bouddha. Jésus. Le seul qui est vide. Il est mort, mais il est ressuscité. Il est vivant aujourd'hui et on peut s'adresser à lui. On peut se jeter à ses pieds et le supplier d'entrer dans notre maison. Si ce n'est pas le cas ce matin, je t'invite à supplier Jésus d'entrer dans ta maison. Il va changer radicalement ta vie. Tu ne regarderas plus la vie de la même manière. Tu vas être comme Jaïrus, émerveillé par Jésus, émerveillé par la puissance de Jésus. Vous savez ce que j'ai mis en petit annoté dans ma Bible? Ici, donc en face du verset 39, ici, pas de marketing, simplement l'expression naturelle d'un client satisfait. Vous savez, j'ai enseigné toute la semaine sur l'évangélisation. C'est une des punchlines que j'ai utilisé. Elle vient même pas de moi. C'est Gaëtan Brassard qui l'a dit, celle-là. Mais je la trouve forte. Et on la retrouve ici. On la retrouve ici. Cet homme, il vient d'être libéré, les amis. Il est libéré. Jésus vient de le libérer. Il était esclave des démons. Il faisait n'importe quoi avec sa vie. Il maîtrisait rien, en fait. Jésus le libère. Qu'est-ce qu'il fait? Il en parle à tout le monde. Vous savez, quand je vais manger dans un bon restaurant ou que je trouve un garagiste honnête. Et oui, ça existe. Il n'y en a pas beaucoup, mais ça existe. Qu'est-ce que je fais, à votre avis? Je fais deux choses. La première, je vais sur Google et je viens mettre un avis positif pour que les autres sachent que là, il y a quelque chose de bien. Et la deuxième, je le dis à tous mes amis. Je le dis à mes amis. Ça, c'est pour un restaurant ou une voiture. Mais quand c'est ta vie, mon ami, si Jésus est dans ta maison, tu as envie de le dire, et c'est ce qu'il faudrait faire. Jésus compte sur nous, les amis. Il compte sur chacun d'entre nous pour transmettre ce message. Aujourd'hui, il ne dit pas. Non, ne dis rien. Garde-le en catimini dans la maison parce que Jésus n'est plus là. Aujourd'hui, on doit en parler. Au contraire. On doit aller partout répandre cette bonne nouvelle. Si Jésus est dans ta maison, alors tu connais cette bonne nouvelle et tu dois vouloir le partager. En fait, tu devrais le partager. Mais c'est naturel. Voyez ? Moi, je t'encourage à réfléchir à ça parce que ça fait partie des applications de ce message. Je conclue ici. Jésus, il a fait une pause. avant de venir réveiller cette jeune fille. Et peut-être qu'il n'a pas encore répondu à tes prières. Peut-être n'as-tu même pas pu formuler une prière tant la situation te semble inextricable. Eh bien, sache que Dieu peut changer les choses. En tout cas, au travers de cette pause, il veut parfaire ta foi. Il ne veut pas que tu deviennes amer ou défaitiste, mais qu'au travers de cette situation, tu portes encore plus de fruits. Alors oui, tu vas être inquiet. Oui, tu vas peut-être avoir peur. Oui, tu vas peut-être être affolé. Mais au final, Dieu a travaillé ton cœur et le but, c'est que tu portes davantage de fruits. Dieu s'intéresse davantage aux fruits qu'aux miracles. Et tu devrais faire la même chose. Tu devrais t'intéresser davantage aux fruits dans ta vie qu'aux choses extraordinaires. En laissant venir Jésus dans sa maison, Jaïrus est passé du désespoir, premier point, à l'émerveillement, avec toutes sortes d'émotions qui l'ont traversé au passage. Mais il est passé d'un extrême à l'autre. Quand Jésus vient dans ta maison, il bouleverse tout. Et oui, tu vas passer par des états émotionnels peut-être qui vont être paniquants. Tu vas être apeuré, tu vas être peut-être inquiet. Tu vas entendre des sons dissonants. Jésus te demande d'aller dans une direction, les autres te disent d'aller dans l'autre. Suis Jésus. Et tu passeras d'un état de désespoir à un état d'émerveillement. C'est ce que je te souhaite en fait. Et j'aimerais prier pour toi. Si tu es dans ce matin, dans un état comme ça, difficile, où les circonstances que tu traverses sont difficiles, tu ne sais pas quoi faire, eh bien laisse-moi prier pour toi. On va prendre un temps de pause là, comme Jésus l'a fait. Peut-être qu'il veut t'apprendre des choses dans ta situation. Ça peut être un temps de chômage, ça peut être un temps de maladie, et en ce moment on a Samia qui regarde probablement ce message-là, et on pense à elle, parce qu'elle est retournée à l'hôpital pour encore un autre problème. Donc vous voyez, il y en a qui traversent des vallées qui sont parfois plus sombres que les nôtres. Donc pensons aux uns aux autres dans ces moments-là.